marche du monde.
I'm looking for my great-grandfather's skull. That means that his body can be somewhere here, but the skull is not here.
Je cherche le crâne de mon arrière-arrière-grand-père, ce qui veut dire que son squelette est peut-être ici, quelque part. Mais son crâne n'est pas là.
You know that they have done whatever they wanted to do with our people.
Tout, ils ont tout fait avec les corps de nos ancêtres. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, voici le corps de Timothée Sniva.
I can give you a skull. I'll show you also a photo.
Je peux aussi vous montrer une photo où je tiens un crâne dans ma main. Mais toute la question est de savoir à qui appartient ce crâne.
La voix de Ida Hoffmann dans La Marche du Monde. Ida est une arrière-arrière-petite fille de Nama. Son ancêtre a été exterminé par les Allemands en 1904, ici, en Namibie, ex-colonie allemande de 1884 à 1915. Au nom de la guerre raciale, 80 000 Herero et 20 000 Nama ont subi la terreur allemande, d'abord parqués dans des réserves, puis assassinés massivement suite à leur insurrection. Les Africains ont ensuite été internés en camps de concentration. L'Allemagne a mis un siècle à reconnaître ce que la justice internationale qualifie de crime de génocide. Et bien que le gouvernement allemand ait présenté ses excuses officielles aux descendants des victimes, la question de la restitution des crânes de leurs ancêtres est plus que jamais d'actualité.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Et pour nous éclairer sur le sort subi par les Nama et les Herero au début du XXe siècle, je reçois Joël Kotek. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en duplex depuis Bruxelles, où vous êtes politologue et spécialiste de l'histoire des génocides. Alors, on a entendu Ida Hoffmann réclamer le crâne de son arrière-arrière-grand-père. Est-ce que 110 ans après le génocide de ses ancêtres, Ida Hoffmann a une chance d'être entendue par le gouvernement allemand ?
Alors tout dépend ce qu'on entend par entendu. Ce qui est certain, c'est que les autorités allemandes font leur possible pour rapatrier les cadavres qui avaient servi pour des expériences absurdes destinées à démontrer la supériorité du peuple allemand ou que sais-je d'autre de la race soi-disant germanique. Mais d'un autre côté, il est certain qu'elle ne retrouvera pas ni le crâne ni le corps de son ancêtre, dans la mesure où précisément les Herero n'étaient plus des êtres humains. C'était simplement du matériel à utiliser par ces savants fous.
Alors Joël Kotek, je vous remercie de nous accompagner. Je vous propose de découvrir avec nos auditeurs les témoignages recueillis en Namibie par notre reporter Cécile Leclerc. Et tout d'abord celui de Ida Hoffmann. Donc, Ida a les cheveux courts et porte les jupes longues des Nama. À 66 ans, elle dirige toujours la World Creche, le jardin d'enfants qu'elle a fondé après l'indépendance de son pays. Et nous la rencontrons dans le quartier de Katutura, un des bidonvilles de Windhoek, la capitale de la Namibie depuis 1990.
My grandparents was Timothée Sniva, and my grandmother was Lena Hoffmann.
Timothée Sniva et Lena Hoffmann étaient mes grands-parents. Évidemment, ils ont parlé du génocide, mais vous savez bien que le système nous opprimait. Nous n'avions pas le droit de nous exprimer dans notre propre langue. D'abord, nous avons dû parler allemand, et puis ensuite l'afrikaans. Mais nous n'avons pas oublié le Nama, notre langue. Même si on ne la maîtrise plus aussi bien qu'avant, nous parlons notre langue. Nous pouvons parler, nous pouvons prêcher, nous pouvons prier et nous aimons aussi chanter en Nama dans nos églises.
Do you want me to sing a song? Yeah. Oh yes. Chota ha sankutara murake rakabusen satihi murahati. It's a karopti tam ei hakei.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Je suis fatiguée. Je veux dormir, fermer les yeux. Parce que mes yeux sont fatigués, je veux m'allonger sur mon lit et me reposer. C'est une chanson de notre hymn book song. Je peux aussi chanter une autre chanson que j'ai apprise très jeune.
And that was, it goes like, That means I want to see my mother. I want to see my mother.
Ça veut dire, je veux voir ma mère. Elle est partie. Elle va revenir avec un train.
A train who said, chuku chuku chuku, a black train.
Un train noir. Mm.
Those are, you know, that our traditional songs.
Voilà, ce sont nos chansons traditionnelles.
Des chansons conservées dans le précieux hymn book, le recueil des chants traditionnels des Nama. Des chants vecteurs de la culture et de la mémoire chez les Nama et aussi chez les Herero, comme l'évoque Esther. Esther Muyange, présidente de la fondation Ova Herero et Ovan Banderu Genocide, elle nous ouvre la porte de sa maison dans le quartier pavillonnaire de Windhoek.
What I can remember about singing is that when the Hereros fled.
Ce dont je me souviens à propos des chansons, c'est qu'au moment où les Herero ont fui dans les pays voisins, en Afrique du Sud ou au Botswana, ils étaient opprimés dans ces pays-là et ils n'avaient pas le droit de parler leur langue. Ils ont donc commencé à chanter pour se transmettre leur histoire. Mais aujourd'hui, les Herero d'Afrique du Sud ne parlent plus Herero. Ils ont perdu leur culture, mais ils savent qu'ils viennent de Namibie.
Chanter pour ne pas oublier, chanter pour retrouver la mémoire, celle d'une enfance discriminée dans un pays passé sous la domination de l'Afrique du Sud et de son régime d'apartheid, après avoir subi la colonisation allemande.
J'ai grandi dans une famille très pauvre. Je n'ai même pas pu terminer mon école primaire. Ma tante ne pouvait même pas me payer une jupe culotte pour mon uniforme. Je me souviens quand on faisait nos exercices, on devait s'accroupir. Un garçon était derrière moi et j'avais plein de trous dans mon pantalon. Et je ne pouvais même pas en parler à mon instituteur, c'était un homme. J'ai donc décidé de quitter l'école et d'aller travailler au champ. Ma mère était morte, mon père était mort, ma tante qui m'avait élevée jusqu'à l'âge de 14 ans s'était exilée. J'étais comme une balle qu'on envoyait dans une direction et puis dans une autre, chez une tante, puis chez l'autre.
Vous rejoignez pour la plupart d'entre vous le premier réseau de RFI, c'est le journal L'Afrique Midi que présente Christophe Boismouzier.
Bonjour à tous, il était 0h18 ce matin à Windhoek quand le drapeau namibien a été hissé au mât du grand stade de la ville. Voilà, c'est dans cette immense clameur que les couleurs namibiennes flottent enfin sur Windhoek. À cet instant précis, la Namibie accède à l'indépendance.
Nous sommes le 21 mars 1990. Christophe Boisbouvier annonce l'indépendance de la Namibie sur RFI.
Alors, Pascal Chollet, vous avez vécu ce moment d'histoire. Vous êtes en direct avec nous. Racontez-nous comment s'est passée la passation des pouvoirs entre l'Afrique du Sud et la nouvelle Namibie indépendante.
C'est en fait donc à minuit 18 que la Namibie est officiellement devenue indépendante. Le drapeau sud-africain a été descendu sous les hurlements de la foule qui criait ainsi un petit peu revanche pour les années d'occupation et le conflit qui a laissé de nombreuses victimes. Pendant que les couleurs sud-africaines disparaissaient à jamais du sol namibien, le président sud-africain, Frédéric de Klerk, portait sa main droite sur son cœur. Frédéric de Klerk qui, dans un discours bref mais fort, a souhaité bonne chance aux Namibiens, leur confiant qu'il avait de l'espoir en l'avenir de la Namibie, un discours qui a quand même été applaudi.
And from there, something grows in me.
C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un besoin profond. Il fallait que je fasse quelque chose de moi. Il fallait que je devienne quelqu'un. Et heureusement, en 1992, j'ai enfin pu parler de ce qui nous est arrivé. Avant, c'était la lutte pour la libération et il n'y avait pas d'espace où contester les Allemands et les Africains du Sud. C'était la guerre à ce moment-là. Mais en 1992, les choses ont changé. Et aujourd'hui, je peux vous raconter mon histoire.
The Germans have was intruders who have come into our country.
Les Allemands sont venus dans notre pays pour voler nos terres. Nos terres, Hereros et Namas. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos richesses et ils ont assassiné notre peuple.
Et votre ancêtre, Timotheus Niva, il se bat aussi pendant la guerre qui dure plusieurs mois.
Oui, il s'est battu contre les Allemands et il est mort. J'essaie d'ailleurs de savoir si son crâne également est en Allemagne. On ne sait pas ce qui s'est passé avec son corps. Il était commandant, il était le capitaine en chef de Abraham Christian.
Et comment votre ancêtre Timotheus Niva est-il mort ?
Il est mort lors d'une bataille.
Vous écoutez RFI.
La marche du monde est en Namibie à la rencontre des descendants des Nama et des Hereros, victimes du génocide perpétré par l'Empire allemand sur leurs ancêtres. Et nous sommes avec vous, Joël Kotek, en duplex depuis Bruxelles, où vous enseignez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour quelles raisons les Allemands veulent éradiquer les peuples noirs de leurs colonies du sud-ouest africain? Parce qu'ils viennent pour s'installer, pour coloniser une terre, mais pourquoi cela s'accompagne-t-il d'une éradication du peuple noir?
Alors ça tient à plusieurs facteurs. Alors, le premier facteur, c'est que l'Allemagne entre tard dans la compétition impérialiste, c'est-à-dire qu'elle s'implante vers la fin du 19e siècle dans un continent qui est déjà largement partagé entre Français et Britanniques, et Belges et Portugais. Et donc il lui reste quelques terres encore, et notamment la Namibie, qui va devenir le sud-ouest africain. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils y implantent des colons qui vont très rapidement lorgner sur des terres pour pouvoir les utiliser et donc, bien sûr, à vouloir en chasser les populations qui y résident et notamment les Héros qui sont des pasteurs. Et donc, vraisemblablement, l'objectif de l'Empire allemand est de transformer la Namibie en colonie de peuplement blanche à l'égal de ce que les Britanniques font, notamment en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément tient sans doute aussi peut-être à une certaine conception proprement allemande, qu'on appelle la pensée idéologique völkisch,
oui,
qui fait qu'à l'époque, on considère qu'il y a des peuples qui ne méritent peut-être pas forcément de vivre sur la terre, et donc qui va transformer en quelque sorte un conflit de type colonial en guerre raciale.
Et ça veut dire aussi que donc ces peuples noirs, notamment les Hereros, ces pasteurs qui occupent des terres qui sont convoitées par les Allemands et donc qui sont confisquées par les Allemands en quelque sorte, hein, des terres où les fermiers s'installent, vont tout de même se révolter.
Oui, c'est ça. Alors, dans un premier temps, la solution est un peu la solution qu'avaient pratiquée les États-Unis, c'est-à-dire de parquer dans des réserves les populations indigènes, et les Hereros le refusent assez rapidement. Et donc, en janvier 1904, il y a une révolte, mais une toute petite révolte, qui voit 123 colons, mais pas leurs épouses, et pas les prêtres, et pas les Britanniques assassinés, enfin, dans des échauffourées. Et compte tenu, justement, et précisément, je dirais peut-être, de cette pensée allemande, eh bien, le commandement allemand et les responsables coloniaux allemands vont profiter de cette petite révolte, en quelque sorte, pour terminer avec un problème qui est celui de la population indigène de Namibie. Et c'est la raison pour laquelle ils vont faire venir sur le terrain un général qui est connu justement pour ne pas faire de quartier avec la population indigène, et c'est le général von Trotta qui s'est illustré notamment dans des conflits coloniaux de l'autre côté de l'Afrique, dans la colonie du Tanganyika.
Et aujourd'hui, en Namibie, les descendants des Hereros et des Nama cohabitent avec les descendants des colons allemands. Ils sont d'ailleurs peu nombreux à accepter de s'exprimer sur le sujet. Écoutez, Joachim, à 34 ans, il a repris la librairie de son père. Nous sommes toujours à Windhoek, dans la capitale namibienne. Joachim répond aux questions de Cécile Leclerc.
Also, meine Urgroßvater, Gesinde, ist damals der erste gewesen, der hier nach Namibia ausgewandert ist.
Mon arrière-grand-père, Gesinde, est le premier à être resté, comme beaucoup d'Allemands qui avaient envie d'aventure à l'époque. Ils ont monté des fermes ou des magasins. Et puis les enfants de Gesinde sont nés ici. Et puis nous en sommes à la quatrième génération.
Savez-vous si Gesinde avait parlé des camps de concentration ? Parce qu'en 1907, lorsqu'il arrive dans le sud-ouest africain, il existe encore plusieurs camps de concentration.
Ich habe ihn nie kennengelernt, weil Meine Großmutter war schon fast 40, wo mein Vater geboren ist.
Je ne l'ai pas connu. Ma grand-mère avait déjà presque 40 ans quand mon père est né. Donc, je n'ai pas connu mon arrière-grand-père.
Großeltern habe ich witzigerweise nie so groß darüber gesprochen, also die haben auch nie.
Et je n'ai jamais parlé du sujet avec mes grands-parents.
Es war vielleicht ein bisschen tabu.
Peut-être que c'était un peu tabou.
Standen auch hier ganz konkret andere Sachen im Vordergrund. Ich meine, wo meine bis vor 24 Jahren.
Mais c'est aussi dû à la guerre. Il y a 25 ans, c'était encore la guerre ici. La guerre de libération. Une guerre plus réelle que cette guerre contre les héros qui appartient au passé.
Si je comprends bien, votre arrière-grand-père Gusinde reste après la Première Guerre mondiale en tant que fermier.
Ja, genau, genau. Er war Farmbesitzer und hat dann eben irgendwann an seine Kinder weitergegeben.
Oui, il est resté. Il était propriétaire de ferme. Il a transmis les terres à ses enfants.
Das wäre dann schon im Hereroland gewesen.
Ces fermes étaient situées dans l'Hereroland. La question que je me pose, il est quand même venu après la guerre. Donc, je pense qu'il a acheté la terre à un colon qui était déjà là.
Sich Neuland einfach gesucht und das annektiert.
Les premiers colons, c'est vrai, ont annexé des terres.
Deswegen, es wäre interessant,
c'est pour ça que ça aurait été intéressant de parler avec mon arrière-grand-père.
Aber in der eigenen Familie ist natürlich nochmal.
J'aurais aimé en savoir plus sur ma propre famille.
Si Joachim ne sait pas du tout ce que son grand-père, en tant que colon allemand, pouvait penser du traitement réservé aux héréros, Esther, au contraire, imagine très bien comment ses grands-parents héréros voyaient les Allemands.
I think in those days, our grandparents were also upholding the Germans.
Je pense qu'à l'époque, nos grands-parents respectaient les Allemands.
Because I remember the grandparents used to say.
Je me souviens, mes grands-parents, lorsqu'ils nous demandaient de faire quelque chose et qu'on le faisait bien, pour nous féliciter, ils nous disaient « C'est bien, bravo, quand tu seras grande, on fera en sorte que tu te maries avec un Allemand. »
That was how the mind functioned.
C'était leur façon de penser.
Grew up,
mais quand tu grandis, tu commences à réfléchir à tout ça, à ce que tes grands-parents disaient. Et en tant qu'adulte, tu comprends que c'est un effet pervers de la colonisation qui endoctrine l'esprit des gens, puisque tu finis par porter au nu celui qui t'oppresse. Et aujourd'hui, tout cela fait que j'ai de la colère et du ressentiment en moi.
Well, I have German friends as individuals, but in general,
j'ai quelques amis allemands et je n'ai rien contre les Allemands en tant qu'individu. Mais je suis très négative et hostile envers le gouvernement allemand.
Un siècle après l'extermination des Hereros et des Nama, la marche du monde est en Namibie à la rencontre des descendants du premier génocide du siècle. C'est ainsi que notre invité Joël Kotek, politologue, le qualifie. Joël Kotek, ce ne serait donc pas le génocide des Arméniens qui serait le premier génocide du XXe siècle?
Oui, certainement. Dans la mesure où ce qui caractérise un génocide, c'est le fait qu'il y ait une décision. Un basculement, et nous l'avons ce basculement, puisque le 2 octobre 1904, nous avons von Trotta, donc le généralissime des troupes d'occupation et des troupes coloniales allemandes, qui promulgue un Vernichtungsbefehl, un ordre d'extermination, c'est-à-dire cette décision de faire disparaître un peuple jugé de trop sur terre, hommes, femmes, enfants, vieillards, et qui explique la disparition du peuple héro. Le peuple héro comptait pour 40% de la population totale de la Namibie en 1904. Il est aujourd'hui portion congrue puisque les héros constitueraient tout au plus de 7 à 8%. Donc il y a bien là génocide.
Merci Joël Kotek, reste avec nous. Nous repartons en Namibie sur RFI.
La marche du monde.
Every herero,
chaque herero,
grandmother, grandparent,
chaque grand-mère, chaque grand-parent en a parlé.
There was an order to kill us all.
Un ordre a été donné de tous nous tuer.
So everyone, they knew about it.
Tout le monde le sait.
<t'en> La voix de Esther Muyenge dans La Marche du Monde. Esther est présidente de la Fondation pour la mémoire du génocide Herero perpétré par les Allemands en Namibie en 1904. Comme chaque année au mois de mars, elle est venue à Swakopmund, sur les lieux mêmes d'un camp de concentration, pour rendre hommage à ses ancêtres. Les Herero et Nama ont fait construire deux mémoriaux dans le désert, là où des champs entiers de squelettes ont été mis à nu. Lors de la commémoration, Esther et les membres de son association se sont arrêtés à chaque mémorial. Le chef Herero s'est à chaque fois adressé aux ancêtres, puis les Nama ont chanté et récité des poèmes.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Au micro de Cécile Leclerc, Esther Muyenge évoque la mémoire de sa famille Herero.
My grandfather was Kambuke, Ngaringombe. My grandfather's father was German.
Mon grand-père s'appelait Kambuke Ngaringombe. Son propre père était allemand. Mais je ne sais rien sur cet arrière-grand-père.
Because my grandfather was as a result of rape.
Mon grand-père était le fruit d'un viol. Il n'a jamais connu son père. Dans ma famille, je sais qu'un homme de mon clan, du nom de Kaishan, s'est rebellé. Ça veut dire que dans ma famille, certains se sont révoltés et ont combattu contre les Allemands qui voulaient prendre nos terres et notre bétail.
They were defeated and killed in Okahandja.
Ils ont été vaincus et tués à Okahandja. Cet homme, Kaishan, a été tué.
No one knew where.
Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait comment il est mort, ni où son corps est passé.
Que se passe-t-il pour votre arrière-grand-mère?
Of course, like many of the other women who were raped, they tried to survive.
Elle a évidemment essayé de survivre avec ses enfants, comme beaucoup d'autres femmes violées.
White children.
Et elles ont élevé leurs enfants blancs, leurs enfants sans père.
Kambuke died in the 80s, but his mother died during the time of concentration camps.
Kambuke est mort dans les années 80, mais sa mère est morte dans les camps de concentration. Quelle que soit leur provenance, les gens ont été envoyés dans les camps de concentration à Shark Island, à Windhoek, à Swakopmund. Difficile de savoir où ils étaient exactement, car il existe très peu de sources d'information à ce sujet.
La plus d'informations que nous avons est l'information qui est recordée dans le so-called Blue Book.
Le peu que nous sachions est consigné dans ce que nous appelons le livre bleu.
The life in the concentration camp was very, very harsh.
La vie en camp de concentration était très, très rude. Les gens mouraient de faim et de maladie.
Because you can imagine what can happen when you put a lot of people.
Vous pouvez imaginer ce qui peut se passer lorsque vous mettez autant de gens dans si peu d'espace.
Votre arrière-grand-mère meurt dans le camp. Savez-vous quand votre grand-père Kambuke sort du camp?
I want to assume that in 1908, I think in March, April, the German government then took a resolution.
Je ne fais que des suppositions, sachant que en 1908, en mars ou avril, le gouvernement allemand a pris la décision de libérer tout le monde.
All the concentration camps should be abolished.
Et la résolution précisait que le 28 mai, tous les camps devaient être abolis et les prisonniers libérés. Donc je pense que mes ancêtres ont été libérés à ce moment-là.
Esther tente de recoller les morceaux d'une histoire qu'elle ne connaît que par bribes. Elle évoque notamment le Blue Book, le livre bleu. C'est là qu'elle a trouvé une description du régime colonial allemand et des atrocités commises par les Allemands envers les locaux africains. Un livre réalisé par les colons anglais après la colonisation allemande. Nous sommes toujours avec Joëlle Kotek en duplex depuis Bruxelles. Joëlle Kotek, je rappelle que vous êtes politologue et que vous êtes un des rares chercheurs européens à vous intéresser s'intéresser au génocide des Héros en Namibie. Si vous le voulez bien, parlons tout d'abord des sources. Alors nos témoins citent ce Blue Book, un livre qui aurait été le fruit d'une collecte d'informations réalisée par les Anglais. Vous, en tant que chercheur, quelles sont les sources dont vous pouvez disposer pour travailler sur l'histoire de ce génocide des Héros en Namibie?
Alors, les sources, naturellement, sont nombreuses, dans la mesure où l'Allemagne est un État extrêmement moderne. C'est sans doute l'État, à l'époque, pratiquement le mieux organisé de l'Europe. Et donc, il y a une administration, il y a des archives, et donc il y a les archives coloniales sur lesquelles ont travaillé un certain nombre d'historiens allemands. D'abord de RDA, et ensuite de RFA, et puis par la suite, un certain nombre d'historiens se sont mis sur le travail. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi les sources des pays avoisinants, et notamment les sources britanniques. Alors ce sont des sources qui sont extrêmement intéressantes. Peut-être les Britanniques sont un peu intéressés aussi, dans la mesure où ce qu'ils veulent démontrer, c'est que l'administration coloniale anglaise est nettement supérieure à l'administration coloniale allemande, pour justifier le fait que l'Allemagne soit dépossédée de tous ses territoires acquis à la fin du XIXe siècle. Mais disons, les sources sont très importantes, hein, et on a d'ailleurs conservé le Vernichtungsbefehl, le fameux donc ordre d'extermination de 2 octobre 1904, il est conservé dans les archives allemandes.
Alors justement, on aimerait comprendre, Joël Kotek, cet ordre d'extermination donc du général von Trotta, que vous venez de reciter. C'est le fait de ce général sur place, dans la colonie, pour, comme il le dit à l'époque, régler cette question Herero, ou est-ce que réellement à l'époque c'est l'application d'une politique décidée en Allemagne à Berlin par un militaire sur le terrain?
Alors c'est un peu des deux. Naturellement, il y a le choix d'un homme. Je vous ai dit qu'il n'a pas été choisi au hasard. Il est connu pour sa brutalité. Je vous avais parlé autant d'Iganica, mais aussi à Pékin, lors de la révolte des Boxers. Il avait été remarqué pour la résolution avec laquelle il avait combattu les insurgés chinois. Alors ça se greffe à la fois, donc c'est la personnalité d'un homme, extrêmement brutal, et puis c'est aussi la rencontre avec la pensée allemande. Cette pensée allemande qui émerge, qui est hantée par la question raciale, et qui hiérarchise les races en fonction de leur utilité. Alors, il y a des peuples utiles, il y a des peuples supérieurs, et les peuples inférieurs n'ont d'utilité que dans la mesure où ils servent les peuples supérieurs. Et dans la mesure où les Herero se révoltent, eh bien, on profite de cette révolte. C'est une véritable aubaine pour pouvoir définitivement s'en débarrasser. Je dirais que le génocide des Herero est, dans une certaine mesure, la matrice de ce qui va se passer par la suite, et je songe naturellement à la Shoah. Cette idée, encore une fois, qu'on brise cette unicité de l'espèce humaine.
En même temps, on est surpris, Joël Kotek, parce qu'il y a d'abord, effectivement, extermination, ordre d'extermination et exécution de cet ordre, et ensuite, on a le sentiment qu'il y a un temps d'arrêt pour mettre les survivants dans un camp de concentration. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, il y a un émoi? Est-ce qu'on s'émeut de ce qui se passe?
Alors tout à fait, alors, l'Allemagne impériale n'est pas l'Allemagne nazie, il y a une opposition, il y a les églises évangéliques, il y a le parti social-démocrate qui est quand même très actif, il y a des figures d'intellectuels comme Auguste Bebel qui est quand même la grande figure de proue de la social-démocratie allemande, et il dénonce au Reichstag ce qui se passe. Et c'est justement à la suite de ces protestations que l'ordre d'extermination finalement est retiré. Alors non sans difficulté, dans la mesure où Guillaume II est favorable à cette politique d'extermination. Mais finalement, le gouvernement allemand estime que cela donne juste précisément une mauvaise réputation à l'Allemagne. Et donc en 1904, on décide d'arrêter l'extermination des Herero, donc le génocide. Mais paradoxalement, la situation des Herero ne sera guère meilleure, puisqu'on décide que les survivants ne seront pas relâchés, mais devront entrer dans un système concentrationnaire.
Écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Néglon.
La marche du monde est en Namibie pour entendre les voix de Esther et de Ida, deux femmes hantées par le génocide perpétré contre leurs ancêtres, deux femmes qui posent des questions avec leurs associations de victimes, deux femmes qui tentent de reconstituer l'itinéraire de leurs ancêtres. Écoutez Ida Hoffmann, descendante de Léona Hoffmann, son ancêtre Nama.
Exactly that Léona Hoffmann was in the concentration camp, that can I not say.
Je sais que Léona Hoffmann était dans un camp de concentration, mais je ne sais pas lequel.
The people who have lived over
Mais elle a raconté aux personnes qui lui ont survécu comment les prisonniers du camp devaient nettoyer les crânes des autres cadavres, comment les scalper, retirer la peau et les yeux, toutes ces choses horribles. Elle ne l'a pas fait elle-même, mais elle a vu les autres le faire.
Then what about the people who was there? They were slaves.
Mais parlons des prisonniers. Ils étaient esclaves et vous savez comment les esclaves sont traités. Ils mouraient de faim.
And the most bitter part.
Mais ce qui est pire que tout, c'est qu'ils devaient retirer la peau sur les cadavres. Que ce soit leurs fils, leurs maris, leurs pères, leurs oncles, leurs amis, qui sais-je. Le fusil sur la tempe, ils devaient nettoyer les crânes et les mettre dans des boîtes pour les envoyer en Allemagne. Ensuite, ils devaient eux-mêmes enterrer le reste des corps. Mais ils n'avaient pas le droit de pleurer ou de refuser, sinon ils auraient été tués sur le champ. Et aujourd'hui, le plus dur pour nous, c'est que l'Allemagne a pris les crânes et ne veut pas les rendre. Je rêve du jour où il va falloir s'asseoir à une table pour en discuter.
Ida Hoffmann est persuadée que de nombreux crânes Nama sont encore en Allemagne, une conviction partagée par Esther Muyange en ce qui concerne les crânes Herero.
The whole issue why the skulls were taken to Germany was to do scientific work on this.
Tout le problème, c'est que les crânes étaient envoyés en Allemagne afin de réaliser des expériences scientifiques. Ces soi-disant scientifiques allemands devaient prouver que les Noirs étaient d'une race inférieure à celle des Blancs.
We were asking them, the German government, to give us some findings of the so-called research.
C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement allemand de nous donner des preuves de ces prétendues recherches. Et bien sûr, la réponse, c'est qu'ils ne retrouvent aucune archive à ce sujet.
But I'm sure that they could not, you know, prove that blacks are inferior to white.
Mais moi, je suis sûre qu'ils n'ont jamais pu prouver que les Noirs sont inférieurs aux Blancs.
Les mots aussi touchants d'Esther Muyange dans La Marche du Monde, qui fait référence aux expériences, Joël Kotek, menées en Allemagne à partir de ces crânes. Je vous laisse tout d'abord réagir à ces différents témoignages en ce qui concerne la restitution de cette mémoire du camp de concentration.
Oui, alors d'abord, ce qui est important à retenir, c'est que, encore une fois, le colonisateur allemand a inventé non pas le système concentrationnaire, il n'a pas inventé le camp de concentration en tant que tel, mais il a inventé quand même le camp de travail forcé. Ce sont les Espagnols qui ont inventé les premiers les camps de concentration, c'était lors de la guerre d'indépendance à Cuba, puis les Britanniques vont reprendre cette sinistre invention lors de la guerre des Boers. Mais ce qui est caractéristique, c'est que dans les deux exemples, à la fois dans la guerre d'indépendance de Cuba et dans la guerre des Boers, les prisonniers ne sont pas astreints du travail. Il y a même le cas assez étonnant où vous avez les Boers, donc les Hollandais, sont autorisés à être internés avec leurs esclaves noirs. Alors ce qui caractérise la grande différence avec les Allemands, c'est que lorsqu'ils créent en 1905 leur camp de concentration, ce sont des camps de concentration qui, dans une certaine mesure, encore une fois, s'apparentent aux camps de concentration nazis, puisque là, ils sont astreints à du travail, mais à du travail mortifère. Le taux de mortalité est terrible.
Et ils doivent en plus donc préparer ces fameux crânes de leur propre famille.
Oui, exactement. Alors ils sont totalement déshumanisés, ils sont immatriculés, ils perdent absolument toute identité. ils sont déshumanisés. Et en quelque sorte, et c'est une manière de, justement d'expliquer la raison pour laquelle les descendants de ces populations revendiquent aujourd'hui le retour effectivement des restes, c'est une manière de les réhumaniser, de démontrer que c'était des êtres humains et qu'ils n'étaient pas simplement du matériel génétique destiné à démontrer naturellement l'insupportable et l'absurdité de ces théories selon laquelle il existerait des races supérieures à d'autres. Bien évidemment qu'il n'y a aucune preuve, bien évidemment que les savants allemands se sont tout simplement mis au service d'une idéologie et au service d'un régime, le régime impérial d'abord. Et on pourrait dire aussi qu'à l'époque, pratiquement dans toutes les universités, on pensait que la race blanche était supérieure à la race soi-disant jaune, à la race soi-disant noire.
Voilà, les Allemands n'ont pas le monopole de cette pensée à cette époque.
Ils n'ont pas le monopole, mais ils l'ont poussé à son paroxysme. Et on sait par exemple qu'Hitler s'est inspiré des travaux de Genfischer, qui a débarqué dans le territoire du Sud-Est africain, précisément pour démontrer la supériorité de la race blanche sur, entre guillemets, les autres races.
Joël Kotek, vous allez l'entendre du côté namibien, cette mémoire du génocide a été longtemps occultée par la lutte pour l'indépendance, par la lutte pour sortir du régime d'apartheid.
We did not speak about the genocide at all. I think that time the focus was on gaining independence.
Nous ne parlions pas du génocide à cette époque. Je pense qu'à ce moment-là, l'important c'était de gagner l'indépendance.
Of course, in homes.
Bien sûr, dans nos foyers, on en parlait individuellement, mais pas collectivement. Et après l'indépendance de la Namibie, je pense que nous avons essayé de trouver nos racines.
C'est seulement depuis 2003 que nous avons
C'est seulement depuis 2003 que nous avons commencé à en parler ouvertement. Nous nous sommes organisés en tant que communauté pour une prise de conscience, pour nous informer sur ce qui s'était vraiment passé, afin que chacun puisse comprendre de quoi il s'agissait.
Ce constat fait par Esther, descendante de Herero, on le retrouve du côté des descendants de colons comme Joachim.
Also man nimmt das im Grunde genommen in der Schulstoff, ne, Lehrplan, wird die Geschichte durchgenommen. Das fängt, glaube ich, schon an in der vierten oder.
C'est à l'école que l'histoire a été dite, que les choses ont été nommées, en quatrième ou cinquième, assez tôt finalement.
Intensiver beschäftigt man sich dann.
J'en ai également parlé avec mes parents.
Und auch, weil das natürlich 2004.
Et puis en 2004, pour le centenaire, il y a eu beaucoup de discussions et de publications sur le sujet. Il s'agit surtout de textes sur la guerre.
Aber klar, die Konzentrationslager gab's und es ist auch da unterschiedlich. Manche waren entsetzt.
Certains ont écrit sur les camps. C'est clair pour tout le monde. Les conditions étaient inhumaines.
Wie die behandelt werden, kann ich mich nicht erinnern, dass einer das befürwortet, in dem was ich gelesen habe.
Je ne me souviens pas avoir lu d'écrits qui défendaient l'existence des camps.
Vielleicht hat das jetzt keiner so öffentlich gesagt.
C'est vrai que certains doivent le penser.
Menschenunwürdige Bedingungen gewesen und das.
Mais ils ne l'ont pas dit ouvertement, publiquement. C'est difficile de se faire une opinion car il y a tellement de discours différents sur le sujet. C'est dur de savoir qui a raison, qui dit la vérité. Il y a différents chiffres. Combien sont morts ? C'est difficile de savoir. Et le sujet est très sensible avec les Herero. Pour eux, il y a eu des milliers de morts. C'était une guerre. Il y avait des vols de terre.
Aus der Sicht der Herero und deswegen, wenn man da Versöhnung machen will,
si on veut se réconcilier,
muss man sehr gut verstehen,
on doit écouter ce que ça représente pour les Herero,
und nicht das nur aus europäischer Sicht.
Et oublier notre point de vue européen.
The main important thing is that they must collect all the skulls.
Le plus important, c'est qu'ils rassemblent tous ces crânes et qu'ils nous les rendent. Parce que ce sont nos crânes, c'est notre mémoire, c'est notre peuple. C'est ce que nous voulons.
You see, we are now in such a position that we don't know that people talk about us without us.
Les gens parlent de nous sans nous.
about us without us.
Ils décident pour nous sans nous.
We would like to see the skulls of the Nama speaking people be in the museum.
Ce que nous voulons, c'est voir les crânes des Nama dans le musée. Mais nous voulons aussi enterrer nos crânes Nama.
So when we have the 2nd April,
afin de commémorer nos ancêtres chaque année pour le 2 avril.
We hope that the government will listen to us.
Nous espérons que le gouvernement va nous écouter. Il faut parler de la restitution des crânes, que des excuses soient prononcées. Il doit y avoir réparation, et c'est ce que le gouvernement allemand essaie d'éviter.
In giving the Namibian government a big portion of money.
Ils donnent beaucoup d'argent au gouvernement namibien pour les faire taire. Nous devons nous asseoir et parler réparation, excuse, restitution. Pourquoi ils ont fait ça aux nôtres? Il doit bien avoir une raison.
La colère de Ida Hoffmann, les questions de Ida Hoffmann et les revendications de Ida Hoffmann sont celles de la communauté Nama et Herero. Mais qu'en pense Joachim, descendant de colons allemands?
Ich denke, wir müssen in zwei Sachen sehen. Erstens ist es lange her und aus der damaligen Zeit war das keine bewusste falsche Handlung.
Je pense qu'il y a deux manières de voir. D'un côté, à l'époque, personne n'avait conscience de mal agir. C'était comme ça, la colonisation par les grandes puissances. Les colons n'avaient pas le sentiment de faire quelque chose de mal ou de bien. D'un autre côté, je crois qu'on doit pouvoir penser que c'est important pour les Hereros. Ils ont leur propre culte des ancêtres. Si on veut vivre ensemble en Namibie, nous devons dialoguer avec les
Hereros.
Peut-être qu'il faut payer des réparations ou accepter qu'ils manifestent leurs émotions, comme chaque année, quand les Hereros reviennent en pèlerinage près du Waterberg. De tout ça dépendra notre avenir en Namibie. Il faut reconnaître que le gouvernement ne s'en préoccupe pas. Et je trouve ça dommage.
But today, we are educated, we are reading, and we understand the social, the economic, the political. Implications of the genocide.
Mais aujourd'hui, nous sommes éduqués et nous comprenons les dimensions sociales, économiques et politiques du génocide.
But today we understand it at another level. Because we are saying what happened to us is also what the Germans exactly did to the Jewish people.
Ce qui nous est arrivé, c'est exactement ce que les Allemands ont fait au peuple juif. Si les Allemands paient des réparations aux Juifs, pourquoi alors ils ne payent pas des réparations aux Hereros et aux Nama? Donc notre combat aujourd'hui, c'est pour une justice de réparation.
Le combat pour une justice de réparation des associations pour la mémoire du génocide des Hereros et des Nama en Namibie, c'est un reportage de Cécile Leclerc pour La Marche du Monde que notre invité Joël Kotek a suivi attentivement depuis Bruxelles. Joël Kotek, le 10 juillet dernier, l'Allemagne a qualifié les massacres commis entre 1904 et 1908 par son armée en Namibie comme un crime de guerre. Et un génocide. Pourquoi seulement maintenant et pourquoi cet été?
Parce qu'il y avait vraiment urgence et parce qu'il y avait des pressions extrêmement fortes de la part des associations des descendants du massacre et qu'il y avait aussi la volonté des Hereros de poursuivre l'État allemand à travers un cabinet d'avocats célèbre en Grande-Bretagne. Et puis il y a la réalité aussi. Donc cet été, non seulement le gouvernement allemand a reconnu sa responsabilité dans le génocide des Hereros, le qualifiant de génocide, mais cet été aussi, que l'Allemagne a reconnu sa co-responsabilité dans le cas du génocide des Arméniens.
Alors justement, voilà. Est-ce que le centenaire du génocide des Arméniens n'a pas joué en quelque sorte en faveur de la reconnaissance par l'Allemagne de sa responsabilité dans le cas du génocide des Nama et des Hereros?
Sans doute. Mais je penserais même plutôt pour le contraire. Je pense que la pression était beaucoup plus forte dans le cas du génocide Herero et que le courage était plus fort dans le cas de la reconnaissance du génocide des Arméniens, parce que les pressions turques sont, comme vous le savez, extrêmement fortes, à leur puissance maximale. Et donc il est, dans une certaine mesure, moins difficile pour l'Allemagne de reconnaître un génocide, somme toute, qui a près d'un siècle. La grande différence, quand même, c'est que, naturellement, cette reconnaissance va immanquablement s'accompagner de discussions s'agissant des réparations, puisqu'on évoque le cas peut-être $1 milliard ou $1 milliard qui devront être versés, alors, soit à l'État namibien en tant que tel, soit plutôt, et ça devrait être le cas en partie quand même, pour les peuples Nama et Herero.
Je vous remercie infiniment, Joël Kotek, pour ces derniers éclairages.
Merci.
Namibie, premier génocide du XXe siècle. C'était un reportage signé Cécile Leclerc et réalisé par Cécile Pompéani. N'hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet, sur Facebook. Réagissez marche.monde@rfi.fr. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Ani, Tina, Dick, it's home from Rotterdam.